prière, ou s'il n'en était pas besoin, ben, je me recommande à son intercession. Cher Sylvain. Voilà, c'est bon. Alors, la dernière fois, nous avons évoqué la mort telle qu'elle est conçue par, dans le christianisme, et singulièrement par l'Église catholique. Et puis, donc, cette mort métaphysique que j'ai distinguée de la mort cérébrale, l'une n'excluant pas l'autre, mais enfin les critères ne sont pas les mêmes. Voilà. Et puis j'ai évoqué également ce fameux jugement particulier qui advient aussitôt après la mort, qui est distingué du jugement général qui adviendra le jour de la parousie, quand il plaira au Père d'envoyer son Fils, non pas pour siffler la fin de la récréation, mais pour que l'histoire soit consommée. Que, avec évidence, il apparaisse comme le Seigneur et Maître de tout et le Rédempteur de tout être humain, que, conjointement, la résurrection des corps advienne, voilà, et que les cieux nouveaux, une terre nouvelle, soient établis. Mais de tout cela, nous reparlerons dans quelques séances, lorsque j'évoquerai justement ce si beau moment de la parousie. Voilà. Pour l'heure, je voudrais vous parler de la béatitude et du ciel. J'avais annoncé dimanche en chaire que je parlerais de la béatitude et enfin, du ciel et du purgatoire. Enfin, bon, je crois qu'on ne peut pas faire les deux, sinon je vous retire jusqu'à demain matin. Et les séances sont déjà assez longues comme ça, donc j'en parlerai la prochaine fois. Voilà. Donc, aujourd'hui, la béatitude et le ciel. La prochaine fois, le purgatoire. Le catéchisme de l'Église catholique, dans son numéro 1024, si vous voulez tout savoir, dit ceci: le ciel est la fin ultime et la réalisation des aspirations les plus profondes de l'homme, l'état de bonheur suprême et définitif. Alors cette courte sentence du catéchisme, qui d'ailleurs est assez peu dissert sur le ciel, le paradis, appelez-le comme vous voulez, l'éternité glorieuse, cette courte sentence donc fait état de deux caractéristiques du ciel. D'abord, il répond à une aspiration qui est profondément ancrée dans l'être humain, dans la nature humaine même, et donc qui est universellement partagée, cette aspiration, par tous les hommes, si elle est intrinsèque à notre nature, celle du bonheur. Et puis, deuxième caractéristique que souligne le catéchisme, c'est que, et ça ne vous surprendra pas, cet état consiste en une plénitude de bonheur, auquel les théologiens donnent le nom de béatitude. Voilà, donc je voudrais traiter de ces deux choses, le fait que la béatitude du ciel s'appuie sur un désir intrinsèque à notre nature, un désir de bonheur profond, puissant, et puis ensuite on verra quelle est cette catégorie spéciale de bonheur, en quoi consiste la béatitude. Alors cette aspiration naturelle au bonheur chez l'être humain, on dirait que c'est une banalité d'y faire allusion, peut-être, je ne sais pas. Mais voilà ce que dit pour sa part saint Augustin: tous, certainement, nous voulons vivre heureux. Et dans le genre humain, il n'est personne qui ne donne son assentiment à cette proposition avant même qu'elle ne soit pleinement énoncée. C'est-à-dire que dès qu'on évoque le bonheur, tout le monde tend l'oreille, au minimum. Après, lorsqu'on décrit en quel bonheur, par exemple, l'Église met sa confiance, bon, là, peut-être que, du coup, il y aura des dissensions. Mais enfin, le terme même de bonheur, voilà, qui éveille le désir. Et puis, Pascal, bien plus tard, dit ceci dans ses pensées: tous les hommes recherchent d'être heureux jusqu'à ceux qui vont se pendre. Il fallait être Pascal pour oser une telle sentence, le grave Pascal, qui est... celui qui a eu l'art de mettre, mais je crois l'avoir déjà dit préalablement, c'est celui qui a eu l'art de mettre saint Augustin, dont il était absolument pétri, en formule lapidaire. Là où saint Augustin est extrêmement disert, hein, c'est le prof de rhétorique, voilà, sémillant, qu'il est toujours resté, même une fois l'habit endossé, religieux, et la charge épiscopale, il est toujours resté égal à lui-même, c'est un homme de lettres qui aime jouer avec les mots, voilà. Pascal est également un homme de lettres, mais beaucoup plus concis et, par certains égards, plus austère. Alors, bien avant ces deux grands penseurs catholiques, les plus importants philosophes grecs de l'Antiquité avaient eux aussi identifié que la quête de bonheur est à la fois le but et le moteur de toute vie humaine. Pour ce motif, on a d'ailleurs qualifié ces thèses philosophiques des anciens, dans leur considération morale, donc, qui décrivent l'agir humain, c'est ça la morale, hein. On a qualifié ces thèses-là de thèses eudémonistes. Ça vient d'un terme grec, eudémonia, qui signifie bonheur. Donc ce sont des philosophies du bonheur, non pas des recettes du bonheur, mais des philosophies du bonheur qui ont essayé de scruter de quoi était faite cette quête du bonheur chez l'être humain, ce que ça impliquait. Ils ont fait beaucoup de distinctions. Et bien qu'ils aient pu différer de l'un à l'autre, ces penseurs grecs, quant à la conception qu'ils se faisaient du bonheur, ils sont tous d'accord quant à un certain nombre de convictions. D'abord, tous, on dirait que c'est du bon sens, mais en fait la philosophie n'est rien d'autre que la continuation du bon sens. Certains diraient par d'autres moyens, mais voilà. Il s'agit simplement de considérer, et ils le font tous, qu'il y a une hiérarchie entre divers types de bonheur après lesquels courent les êtres humains. Notez que si les stoïciens, par exemple, affirment que tous les hommes peuvent accéder au même bonheur, ils sont universalistes, les stoïciens. Donc tous les hommes peuvent accéder au bonheur. En l'occurrence, ce bonheur est un peu particulier parce qu'il consiste à admettre l'ordre du monde et à l'accepter. Une espèce de renoncement un peu devant la fatalité chez les stoïciens, qui par ailleurs ont beaucoup de qualités, mais qui est quand même un peu désolant, quoi. Alors, ça, c'est des stoïciens. Tout le monde, tout être humain, peut accéder au même type de bonheur, tandis que d'autres vont considérer que le bonheur par excellence, il est réservé à une élite. Suivez mon regard, je parle du grand Aristote, j'allais dire Saint Aristote, c'est quand même un peu gonflé. Voilà, mais bon, donc Aristote, pour lui, dans l'éthique à Nicomaque, les choses sont claires. Après avoir fait beaucoup de distinctions très érudites, il nous explique qu'en fait, le bonheur par excellence consiste en la contemplation de la vérité. La philosophie, en termes techniques, on appelle ça théorétique, pour les beaux yeux de la vérité. C'est une philosophie qui n'a pas de prétention à régler l'agir humain, par exemple, contrairement à la morale. C'est une philosophie qui vise simplement à contempler la vérité. La philosophie première, la métaphysique, divers termes qui désignent à peu près la même chose. Pardon pour les profs de philo d'entre vous qui me diront que non, il y a bon. Enfin bon, globalement c'est ça. Donc, contempler la vérité pour les beaux yeux de la vérité, philosophie première, métaphysique. Et puis, exercice de l'amitié politique, c'est-à-dire de l'amitié dans le cadre de la cité, en vue de rechercher et d'accomplir le bien commun. Et ça, pour Aristote, c'est réservé à la fine fleur de l'humanité. Le commun des mortels étant ordonné à des bonheurs plus accessibles, plus triviaux, plus simples. Voilà. Bon. Notez que Aristote n'était pas même citoyen d'Athènes, hein. Il était métèque. Et métèque, il resta. Donc c'est étonnant. Métèque, il faut désarmer ce que le mot peut avoir maintenant d'assez contrariant. Métèque, c'est juste celui qui est étranger, qui n'est pas citoyen d'Athènes. Bref. Donc, première chose, il y a plusieurs catégories de bonheur, il y a une hiérarchie, ça ils sont tous d'accord, même s'ils ne se mettent pas d'accord sur la nature de cette hiérarchie. D'autre part, le vrai bonheur ne peut être atteint par simple chance ou par fatalité. On ne se laisse pas glisser de son canapé vers l'infini bonheur. Ça demande qu'on se retrouve sous les manches et qu'on mette en pratique ce que les Grecs et les Romains à leur suite portaient en très haute estime, la vertu. Voilà, c'est pas une répétition d'actes bons que ce capital que j'ai en moi va pouvoir me faire accéder au bonheur. Et puis, une troisième chose sur laquelle ils sont tous d'accord, le vrai bonheur a quelque chose à voir avec la divinité. Toujours. Chez les Grecs, il n'y a pas de rationalisme, pas de sécularisation, pas non. Le terme daimon, qui a donné eudémonia, le terme daimon donc, désigne une puissance divine, mystérieuse, puissance divine, qui vient habiter l'être humain, voilà, par le biais de son âme, de son intelligence. Voilà. Alors, je vous fais grâce de l'évolution qu'a connue la notion de bonheur au long des siècles, parce que ce n'est pas du tout l'enjeu de ce topo, et puis c'est rébarbatif. Ce que je viens de vous dire est déjà, je pense, avoir des yeux qui commencent à se clore. Donc, il faut que j'avance. Je me contente juste de rappeler que la modernité, qui a été inaugurée, comme vous le savez, au 14e, 15e siècle, n'a pas renié l'enseignement des anciens à cet égard. Elle fait, elle aussi, du bonheur le moteur et la fin de l'existence humaine. Quoique le bonheur a pris, tout au long de la modernité, des acceptions très diverses, et qu'on a surtout évacué progressivement le rôle de toute divinité dans l'accession à ce bonheur. Voilà. C'est surtout ça qui distingue les modernes des anciens. Dieu n'est pas dans l'équation. Quoi. Au début, il y était, parce que les penseurs de la première modernité sont des penseurs chrétiens. Et puis, petit à petit, tout ça s'effiloche. Et finalement, c'est l'être humain seul qui, à la lumière de sa raison, va pouvoir mettre en œuvre un bonheur, un vrai bonheur, qui n'est pas une espèce de fuite dans un monde autre et mystérieux. Et quant à ce qu'on appelle la postmodernité, vous savez, c'est cette ère de la pensée dans laquelle nous sommes engoncés, qui, en fait, s'appelle telle parce qu'elle a enregistré l'échec au moins partiel des ambitions de la modernité. La modernité a mis en œuvre toutes sortes de grandes utopies, enfin, sur le papier du moins, et ensuite a essayé de les réaliser. La modernité est un mouvement optimiste, positif, qui reprend du reste au judéo-christianisme sa conception linéaire de l'histoire vers un plus grand bien. Vous savez, qui a été transformé en mythe du progrès, instauration d'une société parfaite, là encore, suivez mon regard. Il se trouve qu'un certain nombre de systèmes politiques se réclamant de la modernité ont cruellement montré les limites de ce genre de système, et à la découverte des horreurs perpétrées par les systèmes totalitaires, en réalité, eh bien, l'être humain occidental en est venu à se dire « Bon, bah, la modernité, si c'est ça, merci, bonsoir. » Nous serons donc post-modernes. Et on prête à la post-modernité une sorte de nihilisme, vous savez. On a renoncé à tous les grands projets moraux, politiques, nous dit-on, qui étaient ceux de l'Antiquité, qui étaient ceux de la modernité, voilà, pour vivre dans le présent. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons, etc. Mais je m'en porte à faux à l'égard de cette présentation de la postmodernité. Je pense que la postmodernité continue, quoi qu'elle en ait, quoi qu'elle en dise, elle continue à promouvoir une quête du bonheur, sous des formes un peu surprenantes, voire terrifiantes, lorsqu'il s'agit du transhumanisme, par exemple, mais c'est bien la même logique de l'accession à un bonheur. J'allais dire que même le consumérisme, d'une certaine manière, cherche à promouvoir l'accession à un bonheur. Alors, on est d'accord, c'est un bonheur de bas étage, mais tout de même, on ne se laisse pas mourir, quoi. Voilà. Quant à l'écologisme intégral, il vise à instaurer, par une sorte de grand retour, un état, vierge non, puisque mais enfin, mais pour cause, mais une espèce d'état meilleur, quoi, voilà, dans lequel chacun va être à sa place, l'être humain n'ayant évidemment là une place tout à fait congrue. Mais bon, voilà, donc on voit bien qu'il y a une quête de bonheur qui est en fait intrinsèque à l'être humain. Ces différentes écoles de pensée, depuis la plus haute antiquité, témoignent de cela. Mais nous savons, croyant que nous sommes, que, évidemment, que le bonheur est intrinsèque à l'être humain parce que le Créateur nous a programmés ainsi. Il a mis en nous, de manière totalement indélébile, irréversible, cette quête-là. C'est ce que dit le catéchisme de l'Église catholique. Dieu a mis ce désir dans le cœur de l'homme. C'est tout bête. Alors, il faut qu'on voit maintenant, évidemment, cette forme plénière de bonheur, cette forme très particulière de bonheur, que les théologiens ont appelé la béatitude. Vous n'avez probablement pas à apprendre grand-chose ce soir, mais je remets les idées dans l'ordre, et quand même, j'espère apporter ma petite pierre, ou ma petite poussière à l'édifice. Voilà. Alors, on doit à saint Thomas d'Aquin un traité de la béatitude. C'est un traité qui est à la fois très bref, puisque dans la somme de théologie, ce traité ne comporte que 5 questions. Vous savez, dans la somme, on divise la somme en 3 parties, et ces parties sont subdivisées en questions, qui sont elles-mêmes subdivisées en articles. Donc il y a 5 questions, de nombreux articles, par lesquels saint Thomas essaye de scruter ce qu'est la béatitude. Il le fait avec tant de talent que le magistère a reçu cet enseignement de saint Thomas d'Aquin, l'a consacré de son autorité, et qu'on le retrouve maintenant dans la doctrine commune de l'Église. Voilà. C'est pour ça que je vais partir de saint Thomas. Rassurez-vous, je ne vais pas vous faire un commentaire suivi comme je l'ai subi moi-même au séminaire. C'était passionnant, mais bon, c'est un métier, quoi. Et on avait le temps. Voilà, à la campagne, là, en Allemagne. Mais je vais quand même partir de lui, puisque le magistère a reconnu qu'il était tout à fait pertinent dans son analyse. Alors je vais simplement puiser quelques éléments fondamentaux, si j'arrive à tourner la page, voilà, c'est saint Thomas, d'une manière cursive, parce que vous ne voulez pas vous perdre. Voilà. Alors, retenez simplement une chose, enfin un détail qui a toute son importance. Saint Thomas place le traité de la béatitude, ces 5 petites questions, au début de la grande partie de la somme qui est consacrée à la morale chrétienne. C'est tout à fait révélateur de la conception que saint Thomas et ses pères à l'époque se faisaient de la morale, qui par la suite, peut-être parce qu'on a délaissé saint Thomas, je ne sais pas, parce que Dieu le bénit, mais en tout cas, ce qui a été un peu perdu de vue. Si vous voulez étudier la béatitude en tête ou en introduction de toute la morale, c'est se garder d'une conception de la morale chrétienne qui serait une sorte de légalisme. Vous voyez ? Une sorte de « tu dois pas ». Le but est fixé d'emblée, c'est la béatitude, le suprême bonheur. Tout ce qui vient par la suite, ce sont des moyens d'accéder à ce bonheur et des mises en garde contre ce qui peut nous en écarter. Vous voyez donc que cette perspective est très belle, très enthousiasmante, elle correspond d'ailleurs tout à fait à la manière de prêcher du Christ, qui n'est pas là pour... qui ne passe pas son temps à nous enseigner des « tu dois pas », une espèce de morale un peu rigide, des cadres dans lesquels il faudrait se couler, mais qui au contraire est là pour nous libérer, pour nous faire accéder à ce à quoi au fond nous aspirons, précisément ce bonheur. Voilà. Donc je trouve cette perspective très belle, et sachez qu'elle a été perdue de vue progressivement, jusque au manuel des 19e siècle et une partie du 20e siècle, où figurez-vous que dans les manuels de théologie morale, la béatitude était étudiée comme en passant, plutôt on l'a rangée dans la catégorie spiritualité. Quoi. Voilà. Ça c'est plutôt pour méditer gentiment à la chapelle, voilà, bon, c'est pas mal, mais c'était plus du tout un élément aussi décisif, le but et le souffle qui permet de mener une vie chrétienne. Quoi. Voilà. On avait fait une analyse comparée entre la somme théologique et quelques autres documents de saint Bonaventure, saint Albert le Grand, les contemporains de saint Thomas du XIIIe, et les manuels du XIXe et XXe, c'était vraiment criant. On se dit, mais comment on a pu enseigner une morale qui n'était plus ordonnée à la béatitude, dans les rangs même de l'Église catholique romaine? C'est... Bon. Bref, alors, donc dans la première question de ce petit traité de la béatitude, saint Thomas établit que tout être humain vise à parvenir à la perfection de son être. Et on n'apprend rien de nouveau, hein. Tout être, du reste, tout être vivant, est voué à accéder, j'en avais déjà parlé, à la perfection selon sa nature. Voilà. Soit par mode d'instinct pour les animaux, soit par mode spontané pour les végétaux, soit de manière rationnelle et volontaire pour l'être humain. Avec l'exercice de la liberté. Je peux m'y conformer ou je peux m'en écarter relativement. Donc voilà, et la plupart du temps, relève saint Thomas, l'être humain s'achemine vers la perfection de son être sans en être conscient. Et bien souvent, il s'égare, c'est-à-dire il cherche la perfection, il croit trouver la perfection de son être là où elle n'est pas, dans des biens qui ne lui permettent pas d'accéder à la plénitude de son être, donc au bonheur. Voilà, donc cette satisfaction de toutes les aspirations de l'être humain, singulièrement de son âme, c'est ce qu'on appelle la béatitude. Rien de plus, rien de moins. Dans la deuxième question, saint Thomas, justement, écarte tout ce qui ne convient pas, c'est-à-dire tout ce qui ne peut pas constituer la béatitude, tout ce qui ne peut pas nous permettre d'accéder à cette plénitude de bonheur et de perfection de soi qu'on nomme béatitude. Ça ne peut pas, ça, il rejoint là ce que faisait déjà Aristote dans l'Éthique à Nicomaque. Les hommes cherchent le bonheur, quelles sont les différentes conceptions qu'ils s'en font, quelles sont celles qui ne permettent pas, qui sont des fausses pistes. Voilà, donc saint Thomas énumère ce qui ne peut pas l'être. La béatitude ne saurait être causée par, sans doute, par un bien créé extérieur, donc les richesses, les honneurs, le pouvoir. Pourquoi ? Parce que la possession de ces biens est éphémère, d'abord. On le sait que trop, les hommes de pouvoir, un jour sont au pavois, un autre dans le ruisseau, qu'on s'en souvienne, pas très loin d'ici, enfin partout, hein. D'autre part, elle laisse toujours. Ces possessions-là, elles laissent toujours le cœur de l'homme insatisfait. Il en veut toujours plus. Plus on a de fric, plus on en veut. Plus on a de pouvoir, et plus on est inquiet de le préserver et de l'accroître, si possible. Voilà. Et puis, donc ça implique toujours plus ou moins une souffrance. La peur de perdre aussi. Celui qui a beaucoup de fric, il est obligé d'avoir un coffre-fort puissant. Et dès lors que on lui dérobe son argent, même s'il en a beaucoup par ailleurs, il est dans un état de dépression. Voilà. Bref, on voit qu'il sourit, j'espère que voilà. C'est toujours les autres. Et puis la Saint-Cloud, on est assez modeste. Voilà. Cette béatitude ne saurait non plus venir, ça c'est à rappeler à nos contemporains, parce que d'un simple épanouissement physique. Voilà, bon, ça on s'en doute. Ni du seul plaisir d'essence. Là encore, inquiétude, caractère éphémère, etc. Je ne suis pas en train de dénigrer le fait de faire du sport, hein. Ni non plus la bonne chair. C'est pas moi qui vais taper ni sur l'un sur l'autre, mais bon. Voilà. Et pas non plus, même, la béatitude ne saurait procéder d'une perfection de l'âme. Alors, parfois on a l'impression, j'en ai parlé dans cette bafouille la semaine dernière, la causerie au sujet de la sainteté, à laquelle certains d'entre vous m'ont fait la grâce d'assister. Et on a cette conception fausse de la sainteté que dénonce le pape François dans son exhortation apostolique très lapidaire et très efficace sur le sujet de la sainteté, justement. Alors, je ne sais plus ce que c'est, Gaudete et Laetare, voilà, c'est ça le terme, le titre de son œuvre. Gaudete et Laetare, enfin, réjouissez-vous, soyez dans la joie, dans lequel il pointe du doigt des conceptions erronées, et notamment une espèce de gnosticisme. Gnosis, c'est la connaissance. Je pense pouvoir accéder à la sainteté à la mesure que je vais faire mienne la doctrine, que je vais maîtriser tant soit peu l'explication des mystères de Dieu, etc. Voilà, je deviens un docteur en théologie, et partant, j'accède à la perfection, je connais tout, c'est bien simple, je connais tout. Et du coup, je suis quand même quelqu'un de grand. Seigneur, je suis là, je connais, nous nous connaissons, etc. Il y a quelque chose d'un peu, vous voyez, cette espèce de prétention, il y a même cette perfection de l'âme, mais ne suffit pas du tout à nous faire accéder à la béatitude. Voilà. Elle peut même être un empêchement à la béatitude si l'on en tire orgueil, ou si l'on s'en tient à ce qui ne reste que des formules. Le dogme a son intérêt, parce qu'il nous éclaire, parce qu'il sont des jalons qui nous permettent de connaître tant soit peu Dieu, et surtout de ne pas trop errer, de ne pas trop nous égarer dans la connaissance de Dieu. Mais en réalité, je l'ai dit encore dans cette petite conférence, mais je l'ai dit plusieurs fois dans le cadre de ces causeries catéchèses, quand on exprime les mystères de Dieu dans le cadre de la théologie, on dit plus de choses fausses que de choses vraies. C'est pas moi qui le dis, c'est saint Thomas. Voilà. Donc ça, tout ça ne suffit pas. Ni les possessions des biens extérieurs, ni l'épanouissement physique, ni même la perfection naturelle de l'âme. Et pas même la pratique de la vertu. Là aussi, c'est une autre erreur. que le gnosticisme, le point, là aussi le pape, lorsqu'il nous dit, il parle du pélagianisme. Pélage, ce moine breton qui croyait, parce que c'était un grand ascète, qu'il était assez optimiste sur la nature humaine, qu'à la force du poignet, il allait pouvoir devenir un saint. Eh bien non, lui répond saint Augustin, c'est la grâce qui fait de toi un saint. C'est pas tes vertus personnelles, c'est d'abord et avant tout le don de Dieu, auquel tu corresponds humblement. Et après, vas-y, tu peux te donner dans les exercices ascétiques, vas-y. Mais sois bien conscient que c'est pas toi qui acquiert à toute force le royaume. Voilà. Donc, après avoir établi que la béatitude ne saurait procéder d'aucun bien créé, bah, très logiquement, saint Thomas montre que Dieu seul peut procurer la béatitude. Et c'est également la béatitude de notre âme. Dans notre âme, on a deux facultés, l'intelligence et la volonté libre. Cette intelligence est faite pour connaître la vérité. Quel est le vrai dans toute son extension? Quelle est la vérité ultime? Jésus le dit, je suis la vérité, c'est Dieu. Donc Dieu seul peut nourrir à satiété notre intelligence. Et il en va de même pour notre volonté, qu'on appelle le cœur, de manière plus imagée et plus aimable. Notre cœur est orienté vers le bien. Tous nous cherchons un bien. Alors là encore, hein, ça dépend de la... Enfin, il y a bien des catégories de biens, depuis les biens sensibles et plus accessibles jusqu'au bien suprême qui est Dieu. Seul le bien absolu, le bien souverain qui est Dieu, peut nous béatifier. C'est très simple en fait. Notre intelligence et notre volonté ne pourront trouver leur plein épanouissement qu'en présence de Dieu, en fait, qui est le souverain bien et qui est la vérité dans toute son extension. Et par là, évidemment, saint Thomas rejoint son grand maître, saint Augustin. Bon, vous connaissez par cœur cette sentence qui l'expose dès le début de ses confessions, livre 1er, chapitre 1er, première page, quoi, voilà, comme ça vous pourrez aller voir saint Augustin, lire les confessions sans pour autant vous y perdre, et vous trouverez ceci: tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il demeure loin de toi, ou tant qu'il ne demeure en toi. Donc nous puissions demeurer en Dieu, qui est la vérité dans toute son extension, qui est le bien souverain, si nous voulons que notre âme entre dans la béatitude. Voilà, et puis ensuite, dans les questions 3 à 5, ou le reste du traité, eh bien, saint Thomas expose plus précisément en quoi consiste la béatitude. Alors là, je suis encore moins saint Thomas, ça va perdre dans ce que je vais vous dire, mais je l'ai enrichi de tout ce que nous apprend l'Écriture, la tradition, enfin tout. Quel orgueil. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, j'y ai ajouté quelques petites choses. Voilà. Le catéchisme de l'Église catholique nous dit ceci: la béatitude résulte d'un don gratuit de Dieu. C'est pourquoi on l'a dit surnaturel. La béatitude est donc cette forme de bonheur qui est d'ordre surnaturel, qui dépasse les forces de notre nature. J'avais déjà insisté, je crois, au début de cette année, sur ce paradoxe, et je l'avais dit en citant le père Sesboué, qui avait des phrases tout à fait éloquentes, de ce paradoxe qui veut que nous soyons faits pour un bonheur absolu, un bonheur infini, et que pourtant, donc le Créateur nous a constitués tels, et pourtant ce bonheur est inaccessible à notre nature. C'est quand même bizarre de nous donner une nature qui n'est pas capable de s'octroyer à elle-même, d'obtenir par ses propres ressources son but. Il n'a pas fait ça avec les animaux, ni avec les plantes, il a fait ça avec l'être humain. Pourquoi? On s'en doute, pour que nous soyons contraints et conduits, parce que Dieu ne contraint pas, conduits à nous en remettre à lui. Pour qu'il puisse nous donner, c'est lui qui a la clé, quoi, de la réalisation de notre nature. Notre nature humaine a cette spécificité et ce paradoxe-là, qu'elle n'est pas capable d'obtenir par elle-même sa propre finalité. On pourrait croire que c'est de la part de Dieu du sadisme, que c'est mettre un scarabée sur le dos ou je sais pas, enlever une aile d'une mouche ou ce que vous voulez. Non, c'est pour que nous soyons conduits à nous en remettre à lui. Dans une relation confiante, filiale, qui consiste à le supplier de bien vouloir nous donner la réalisation de notre nature, le don de sa grâce. Donc, la béatitude, ça consiste, je l'ai dit, hein, déjà à connaître et à aimer Dieu. Que notre intelligence se tourne vers cette vérité sublime et immense, infinie qu'est Dieu, que notre cœur se tourne vers ce souverain bien qu'est Dieu. Alors, il est possible, par les propres sources de notre nature, évidemment, de connaître quelque chose de Dieu, par exemple, qu'il existe vraiment, qu'il a des attributs, voilà, de l'aimer tant soit peu. Notre nature est capable de ça, quand même. Elle a la bourresse, si je puis dire. Mais ça ne va pas très loin. Quand on constate, pour s'en convaincre, qu'il suffit de regarder la conception que se faisaient les philosophes des Lumières, par exemple, de Dieu, donc avec leur simple raison, les ressources seules de leur raison, ils appréhendaient Dieu. Ben, disons, ce Dieu-là était une espèce d'être froid, indifférent d'ailleurs. Vous savez, l'architecte, le grand architecte qui met une chiquenaude initiale à l'édifice créé et qui s'en désintéresse totalement. Qui ne suscite du coup de la part de la créature aucune sorte d'amour, mais une froide indifférence et, dans le meilleur des cas, une obéissance un peu servile parce que c'est en même temps un peu père foutard. Enfin, il est là-haut, mais si jamais on contrevient à l'ordre naturel, il se pourrait bien qu'il se manifeste, quoi, de manière pas tout à fait sympathique. Vous voyez, c'est terrible, cette conception-là. Bon. Donc, la connaissance et l'amour de Dieu que nous procure la béatitude sont évidemment d'un tout autre ordre. C'est la nouveauté de l'Évangile. C'était déjà dans l'Ancien Testament en germe, mais en quel pas, lorsque l'Évangile est proclamé, nous le verrons tel qu'il est. C'est ce que nous dit saint Jean dans sa première épître. Il s'agit d'entrer dans l'intimité de Dieu. Voilà donc ce qu'est la béatitude, l'intimité par l'intelligence, par la connaissance amoureuse de qui est Dieu Trinité, l'intimité de ce Dieu. Nous le verrons tel qu'il est. Et la théologie chrétienne a forgé le terme de vision béatifique, du reste, pour que nous comprenions bien que la béatitude nous introduit dans une vision de Dieu. Une vision qui est immédiate, nous dit-on. Immédiate, ça veut dire qu'il ne passe par aucune médiation. C'est sans intermédiaire, sans médium, hein, direct. Ni par les images fournies par les sens, ni par les concepts forgés par l'intelligence, directement. On est informé, dit-on, de manière classique, informé directement par l'essence de Dieu, dans une contemplation immédiate. Une contemplation que saint Paul qualifie, et toute la tradition chrétienne va retenir le terme, une contemplation faciale, une vision face à face, dit-il, dans la première aux Corinthiens. Aujourd'hui, je vois comme dans une énigme, vous savez, comme dans un miroir, par énigme, mais alors, je verrai face à face, tel que je suis connu. C'est-à-dire, je verrai tel que je suis connu, c'est tout à fait important, cette précision. Je verrai Dieu, la vision béatifique nous permet de connaître Dieu à la manière dont Dieu se connaît. Ça, rien moins que ça. À la manière dont Dieu se connaît. Dieu nous prête ses yeux, si je puis dire, son intelligence, mais aussi son cœur, pour connaître d'une connaissance amoureuse qui il est. C'est quand même... Évidemment, nous, on arrive toujours trop tard, donc ça nous paraît mais évident. Et d'une accessibilité, ce Dieu, ben oui, enfin, c'est tout à fait révolutionnaire en réalité. Voilà. Et on a eu un avant-goût de cette vision faciale, du moins les contemporains du Christ l'ont eu, qui me voit le Père. Il y a si longtemps que vous êtes avec moi, vous n'avez pas compris. Qui me voit le Père. Ah oui. Donc ils avaient déjà, et c'est tout à fait nouveau. Jamais sous le soleil, ni sous la lune d'ailleurs, n'avait jamais paru ce Dieu si proche, voilà, qu'en Jésus-Christ. Et encore, c'était un pas à l'avant-goût, que le Seigneur me permette, mais dans son humanité, par rapport à l'essence de Dieu, si vous voulez. Et quand on voit cet épisode fulgurant de la transfiguration, ce n'est que quelque chose de la divinité de Jésus qui transparaît, qui scintille à travers son humanité. Rien de plus. Non, mais encore une fois, il n'y a aucun crime de lèse-majesté. Je critique pas le Christ pour cette vision-là, mais c'est rien du tout. C'est une petite poussière par rapport à ce à quoi la béatitude nous fait accéder. Vision directe de qui est Dieu. Voilà. Et du reste, la béatitude ne se limite pas à cette vision, ce serait déjà très beau, immédiate et amoureuse de Dieu tel qu'il est dans son essence. Je vous cite le père Jean-Marc Beau, auquel j'ai fait allusion la dernière fois, je ne sais pas si vous vous souvenez, prêtre du diocèse de Versailles, qui fut professeur de théologie au séminaire notamment, qui a écrit trois petits ouvrages d'édition de l'Emmanuel, Le ciel, le purgatoire, l'enfer, pas compliqué, et ensuite une synthèse, ça c'est plus... Les bouquins précités sont déjà des petits ouvrages, hein, c'est pas des grosses sommes, très substantielles néanmoins, mais là vous avez la synthèse, voilà, publié très récemment, c'est une édition Artege, pour la modique somme de 16,90 €. Je crois que c'est le prix de la BD Saint-Audouane. Donc comme ça, c'est bien. Vous gardez le même gamarguer, le même. Voilà. Petite parenthèse pour vous dire que des BD sont encore disponibles. Voilà. Et donc, ça, c'est un ouvrage qui s'appelle Les mystères de la vie éternelle, toutes vos questions sur l'au-delà. Bon, argument commercial, je pense que ça, c'est Artege qui lui a soufflé à l'oreille. Et le Père Beau dit ceci. Donc, pour montrer que la béatitude ne s'imite pas même à cette vision immédiate et amoureuse de Dieu tel qu'il est. L'idée d'un panorama visuel, dit le Père Beau, si agréable soit-il, risque de nous égarer. Donc, le panorama visuel, wow, le spectacle incroyable, risque de nous égarer car la vision béatifique ne se réduit pas à un simple spectacle. Du reste, elle n'est pas la contemplation d'un tableau immobile. C'est l'impression qu'on pourrait peut-être avoir, je ne sais pas quelle représentation vous faites de la vision béatifique, de quand nous serons au ciel, mais vous savez, immense, magnifique, dantesque spectacle, voilà, et très réjouissant. Mais enfin, bon, ça reste un peu immobile tout ça. On est dans l'éternité, voilà. Si émouvant soit-il, poursuit l'auteur, le regard admiratif sur un chef-d'œuvre, fût-il Dieu, ne saurait combler notre soif d'infini. Aucun arrêt sur image n'enchantera un cœur humain toute une éternité. L'image qui doit surgir pour évoquer l'éternité trinitaire est celle d'une exubérance infinie, d'un surplus éternel, d'une liberté absolue. En fait, c'est un spectacle éminemment dynamique, super substantiel, voilà, je ne sais pas si ça existe, mais avec une espèce de enfin, c'est totalement enchanteur, c'est pas du tout quelque chose de statique, si vous voulez. Bon, voilà, quand vous allez au Louvre, il y a quand même une somme considérable de chefs-d'œuvre là-bas. Vous pouvez être ébloui, ému, aux larmes parfois même, parce qu'il y a quand même des œuvres de première catégorie là-bas. Des artistes ont réussi à saisir des choses d'une façon incroyable. Et dans des styles presque infinis, en plus. Il y en a pour tout le monde, tous les goûts, toutes les époques, c'est magnifique. Ce que l'être humain est capable de faire, quand même. Il y a quelque chose de divin là-dedans, je pense. Et donc, on voit ça, on y revient, du reste. Je pense que peut-être certains d'entre vous êtes habitués à revenir, quand vous avez un petit vague à l'âme, dans tel, tel musée, tel, et puis, oh là là, ça y est, on se rebranche sur le beau. Voilà. Enfin, tout ça est quand même circonscrit, quoi, fini, tout de même. Alors que la vision béatifique, elle, nous donne accès à quelque chose qui est en perpétuel mouvement, d'un dynamisme que nous ne pouvons même pas imaginer sur Terre, en fait. C'est cet énorme... Non, mais c'est nul. Central, c'est nul. Je ne sais pas comment vous dire, enfin, c'est une espèce de... Bref, le plus beau ballet auquel vous avez assisté, c'est ça, puissance infinie. Et voilà, c'est ce qui... Enfin, c'est une réjouissance de tous les instants, quoi. Et l'auteur ajoute ces considérations qui permettent de se faire une idée plus juste de la béatitude, plutôt qu'un quelque chose de statique, ou même une espèce de une danse permanente, la danse, voilà. Beaucoup de mystiques parlent de lorsqu'ils ont eu des visions de la Trinité, ce ne sont que des visions, tant qu'on est sur Terre, on ne peut pas accéder à la vraie vision béatifique, donc c'est quelque chose de dérivé, mais ils parlent tous d'une immense danse, parce que ce sont des personnes divines qui se donnent et se rétrocèdent l'une l'autre. Imaginez un peu le spectacle. Je ne sais même pas ce que ça donne, en fait, mais bon. Il nous dit ceci, « Dieu ne nous apparaîtra pas comme un objet dans un champ visuel en face de nous. » Ce que pourrait faire croire saint Paul quand il dit « Je verrai alors face à face. » Voilà, on est devant quoi, l'un l'autre. Non, c'est pas comme ça, c'est pas un objet dans un champ visuel en face de nous. Il sera plutôt le milieu enveloppant, remplissant tout de sa présence aimante. Alors non seulement c'est une sorte de ballet incroyable, une danse, machin, mais en plus, ce sera le milieu dans lequel nous serons le pléroma, dans lequel qui implique une plénitude. Imaginez. Enfin, ouais, on peut qu'imaginer. Voilà. Et il se réfère, cet auteur, à la vision du paradis de Dante dans la Divine Comédie. Dans le jeu des images, il faut supposer, comme le fait Dante, que Dieu est à la fois. Alors, les mots sont impuissants, mais même ceux de Dante, en fait. Le cercle et le point dans la vision de l'ineffable merveille. Le cercle et le point, ça ne vous dit rien, sans doute. Vous auriez aimé en rester au balai, là, comme il y a un instant. Vous voyez, c'est une espèce de bain dans lequel on est immergé, tout ça. Mais le cercle et le point, c'est très bien vu. Voici ce que dit Dante. Le triomphe joue toujours autour du point qui semble enclos. Ce point, c'est Dieu, la Trinité Sainte, dans le paradis, qui semble enclos. Donc, il semble au cœur, quoi, entouré de. Dans ce qu'il enclos. Non, mais. Les mots sont complètement impuissants, en fait. Ce jeu divin consiste à tout envelopper comme un cercle infini et à se laisser envelopper comme un point infime. Non, mais. Dieu, bon, cercle infini, milieu, bain dans lequel on est, ok. Parce que là, je pense que, même si on ne voit pas du tout à quoi ça ressemble, on peut quand même en avoir une image. Des bains, bon. Ça, je suis jamais entré dans un bain, je sais pas, je vais pas savoir. Mais bon, on m'a dit que c'était sympa. Enfin, ou non, ou jacuzzi, là, enfin bon. Hammam, non, c'est pas la même chose. bon, excusez-moi pour l'approximation, mais voyez que c'est. Et donc, on est dans un bain, tout va bien. Et en même temps, c'est comme si ce bain qui est Dieu, dans lequel on est plongé dans la vision béatifique, était un point à l'intérieur de nous. Il est à l'extérieur et à l'intérieur. Ne cherchez pas à comprendre, on devient fou. Non, mais c'est quand même étonnant. Il est à la fois à l'extérieur, à l'intérieur. En fait, on rejoint là ce qu'a écrit saint Paul quand il dit à la première aux Corinthiens, Dieu sera tout en tous. Il est à la fois le plérôme, le milieu, le bain dans lequel on est. Il est cette danse, ou plutôt on entre dans la danse des trois personnes divines. C'est ça. Entrer dans l'intimité, c'est entrer dans la danse de la Trinité. Et en même temps, cette Trinité est à l'intérieur de nous. On n'est pas comme un spectateur devant un tableau somptueux, pas même devant un spectacle incroyable. On n'est pas seulement le baigneur dans son bain béatifiant, mais ce bain est en nous, cette danse est en nous. Imaginez un peu le truc. C'est incroyable. J'avoue que ça m'a renouvelé, le fait de préparer ce topo m'a quand même un peu renouvelé la conception que j'avais de la vision béatifique. Je ne voyais pas quelque chose de si. Je devrais aller chercher plus souvent chez Dante de quoi nourrir ma vie, oui, la méditation, mais c'est quand même étonnant. Quoi. Pour autant, évidemment, on ne souffre pas, parce qu'on pourrait croire qu'il y en a à l'intérieur, à l'extérieur, pas du tout. Tout ça nous porte à l'incandescence, en quelque sorte. Voilà. En un mot, la béatitude permet une sorte de possession mutuelle. C'est incroyable, quand même. Je suis possédé par Dieu, dans la vision béatifique, enfin dans la béatitude, et je possède Dieu. Bon, voilà. Donc la béatitude nous amène plus loin encore, au dire de Jésus lui-même. Parce que tout ça peut vous paraître encore un peu théorique. Mais il y a quelque chose d'éminemment incarné, pour le coup, qui appert dans l'Écriture depuis le début de l'Ancien Testament, évidemment en plénitude dans ce que nous dit Christ. Voilà ce qu'il nous dit. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Vous ne direz rien de nouveau, enfin, pardon Jésus, mais bon. Qu'ils te connaissent, mais j'y ai déjà insisté là encore, mais il faut toujours y revenir, parce que on a le français peut-être un peu traître par rapport à ce que l'on dit en grec, en hébreu. connaître le mot qu'emploie, et Jésus n'emploie pas un mot pour un autre, on s'en doute, ça ne se résume pas à une simple appréhension spéculative, théorique, ni même à la seule vision amoureuse de Dieu, qui nous serait intérieur, extérieur, machin, comme je viens de le dire. Dans la terminologie hébraïque, ce verbe décrit une intimité analogue à celle d'un couple dans l'union charnelle. C'est quand même clair. Le même terme est employé par Jésus que celui que l'on voit dans le chapitre 4e de la Genèse. L'homme connut Ève et sa femme ont conçu et enfanta Caïn. Adam connut Ève. Et il y a eu des relations charnelles avec Ève. Alors ça ne veut pas dire qu'on aura des relations charnelles avec Dieu. Ce serait un peu déplacé ou un peu. Mais ça veut dire que si le Seigneur nous dit ça, c'est qu'il veut que nous progressions dans la connaissance de cette intimité qu'on aura avec Dieu, et qu'il faut qu'on comprenne que ça, c'est analogue à cette union étroite, charnelle d'un couple. Voilà. On lit ça au Cantique des Cantiques, dans l'Ancien Testament. On lit ça au livre d'Osée, il y a des choses analogues. Mais on lit ça aussi chez les grands mystiques. Je vous renvoie à celle qui a été canonisée il n'y a pas si longtemps, Sainte Angèle de Foligno, dans son livre des visions et instructions, à Saint Jean de la Croix, bien évidemment, dans son Cantique spirituel, dans la vive flamme d'amour. Alors, pour ceux d'entre vous qui n'auraient pas encore ouvert ces pages, si le Cantique des Cantiques, bien sûr, les autres, peut-être vous dites-vous, oh là là, c'est tout de mystique, oui, bon, je sais que le docteur, tout ça, mais... Alors, âme sensible, s'abstenir quand même, parce que quand on ouvre les certaines pages, et quand on lit certaines expressions de ces mystiques, on a l'impression d'assister à une scène d'union charnelle, quoi. Enfin, c'est un peu dérangeant, même. C'est pas... même. Voilà. Oui, quand on voit cette représentation de Sainte Thérèse d'Avila en extase, que l'on doit au Bernin, je crois, tous les critiques un peu goguenards disent « Ouais, bah, voilà, elle a un orgasme, c'est comme ce qu'ils disent. Bah, » Non, en fait, c'est-à-dire qu'il faut comprendre les choses en sens inverse, c'est-à-dire que l'union charnelle est même la plus belle, la plus donnée, la plus ce qu'on veut, est un pâle reflet de ce que nous éprouvons au ciel, dans notre âme et jusque dans notre corps. C'est ça le mystère de l'incarnation, enfin c'est ça l'impact que Dieu a voulu donner à notre être dans tout ce qu'il est par cette intimité avec lui, dont, encore une fois, l'union charnelle n'est que le reflet. Donc faut, on a peiné à dire ça dans certains cercles, disons, qui sont au sens le plus neutre et le plus large, parce que ça faisait vraiment érotique, quoi. Mais non, encore une fois, le modèle, il est là-haut, et sur Terre, c'est un pâle reflet. Même que la paternité divine est un rapport analogique avec la paternité la plus belle qui existe sur Terre. Ça n'est qu'un reflet, ça n'est qu'un reflet pas au sens platonicien, entendons-nous bien. Il n'y a pas l'idée suprême là-haut, parfaite, et puis sur Terre que des trucs dont il faut s'affranchir. Non, non, non. C'est les chemins qui nous acheminent justement vers Dieu, en fait. Bon, merci de cette remarque tout à fait pertinente, monsieur Olivier Jean-Rico, à cheval sur la précision. Oui, tout à fait, non, mais il est évident que ça n'aura de redondance sur notre corps qu'une fois la résurrection des corps advenue. Tout à fait. Mais notre âme n'en éprouve pas moins la même chose dès son accès à la béatitude, si elle est prête à partir du jugement dernier. S'il faut qu'elle attende encore un peu, bah, après un peu plus purgatoire. Mais c'est quand même... voilà. C'est le fond de la béatitude, quoi. Voilà. Et le Père Pau dit ceci, bah, l'effet d'une usure est aboli par l'instant vital de l'éblouissante surprise perpétuellement. Mon Père Pau aime bien un petit peu ça. Faire de la poésie, quoi. Une éblouissante surprise perpétuellement neuve. C'est ça qui nous attend. Grâce à cette danse qui est un bain, qui est la présence réciproque de Dieu en nous, de nous en lui, analogue à l'union charnelle, mais en poussée à l'infini. Enfin, pas à l'infini, parce que on est progressé, mais voilà. Autrement dit, on est loin du bon mot de Woody Allen, voilà, qui disait que l'éternité, c'est très long, surtout vers la fin. N'empêche que dès les cours de catéchisme en classe primaire, c'est une objection que nous font les enfants. Hein. Ouais, mais quand même. On ne leur explique pas tout sur l'union charnelle et tout là. Mais en gros, il va par étapes. Là, c'est bon. 21h30, je peux. Voilà, le programme de nuit. Bon, non, mais. ça va couper. Mais. en tout cas, parce que sinon, pour mon procès de vérification, c'est que. Non, mais ce que les enfants nous disent, mais oh là là, mais tout le temps, là, comme ça, tout le temps, on ne bouge pas, ça s'arrête jamais. Non, mais ça va être bien. Moi, j'ai envie de voir Dieu quand même, hein, parce qu'il faillote un peu. c'est pas vrai, ils y aspirent. Mais on suscite chez eux cette envie. Mais en même temps, il leur semble qu'il manque quelques éléments pour que vraiment le bonheur soit parfait. Quoi. Dieu sait bien. Ouais, bon, un petit jeu par-ci, une petite déconnade par-là, on peut comprendre. Hein, c'est... Et puis, en fait, au fond de nous, il y a un peu de ça aussi, quand même, hein, une résistance. Vous êtes sûr ? Je suis sûr que c'est ça. Oui. Alors, enfin, moi, c'est pas moi qui suis sûr, en fait, mais je m'appuie sur ce que me dit l'Église, qui elle-même s'appuie sur les paroles du Seigneur. Voilà. Voilà. Alors, ça, c'est ce que les théologiens ont appelé. Les théologiens, toujours, qui forgent des mots. Alors, ils ont appelé. Ce que le Seigneur le dit de manière très simple, fulgurante, elliptique parfois, souvent même. Les théologiens ont essayé de le déployer, alors ils vont inventer des termes. Donc ça, c'est à la béatitude essentielle. Voilà en quoi consiste la béatitude essentielle. C'est la vision béatifique telle que j'ai essayé de vous la décrire. Voilà, je ne reviens pas dessus. Le bain, la danse, etc. Et alors, il distingue cette béatitude essentiel, selon quoi consiste essentiellement, principalement, la béatitude, de ce qu'ils appellent la béatitude accidentelle. Qu'est-ce que c'est que cette bête-là ? Il complique tout. Alors, la béatitude accidentelle, l'expression est très malheureuse. Enfin, en tout cas, elle n'est plus audible aujourd'hui. À l'époque où on distinguait en philosophie classique, et donc chez les théologiens médiévaux, la substance et les accidents, enfin remarquez qu'on fait ça depuis l'Antiquité en fait, mais désormais, accidentel, c'est pas terrible quoi. Un accident, on court pas après quoi, en gros. Donc tant mieux si c'est pas l'essentiel de la béatitude, Seigneur, je vous laisse ça, l'accident, j'en fais. Accidentel, on a l'impression que c'est, voilà, que c'est soit peu de choses, hein, oui, c'est accidentel quoi, soit c'est obtenu par hasard, éventuellement, ou alors c'est carrément la catastrophe quoi, accident. Alors en fait, on qualifie d'accidentelle cette part de béatitude, ce bonheur, qui est procuré par des éléments autres que la vision béatifique. Voilà. Ça accompagne la vision béatifique, ça n'en est pas séparable, ça accompagne. Je vais vous en dire un mot. Voilà. Alors, justement, en quoi consiste cette béatitude accidentelle ? Alors, je relève juste deux éléments. Le premier élément, c'est ce à quoi faisait allusion Olivier Jean Rigaud tout à l'heure, c'est la gloire du corps ressuscité. C'est accidentel. Notre âme entre au ciel avant même la résurrection, enfin si on y est prêt, elle a une plénitude de béatitude, ça y est, elle est dans la béatitude. Et lorsque, au moment de la résurrection des corps, le corps va se réunir à cette âme, alors elle en éprouvera un surcroît de bonheur. La personne humaine, dans la gloire, va éprouver un surcroît de bonheur. C'est bizarre, hein ? On ajoute à la plénitude encore. Grâce sur grâce, nous avons tous reçu, dit le prologue de Jean. On pourrait dire plénitude sur plénitude, nous avons tous reçu, vous voyez ? On croirait que, enfin, peut-être c'est ça d'ailleurs, j'ai jamais vu ça dans les commentaires, mais pourquoi pas ? C'est qu'il pointe le doigt sur cette béatitude qui a plusieurs composantes. Si la béatitude est la rétribution et la récompense, ça paraît très mercantile de parler en ces termes, mais saint Paul l'a osé. C'est pas du tout sans vergogne. Il parle de la course dans le stade, je cours pour remporter le prix, je tiens tout pour des balayures au regard du Christ que je veux saisir. Certes, je n'ai pas encore saisi, mais lui, il m'a saisi. Enfin, bon, bref, c'est du corps à corps. Bon, j'ai oublié de dire que la béatitude, c'est aussi ça. C'est pas le combat de Jacob, rassurez-vous, mais voilà. C'est la béatitude est une rétribution d'une existence conforme au plan de Dieu, d'une existence qui aime, au cours de laquelle on a aimé Dieu, essayé de l'aimer, voyant sa grâce. C'est cette béatitude gratifie l'âme, mais puisque nous sommes corps et âme, il est assez logique que le corps lui-même jouisse lui aussi d'une rétribution. Et ce qui se passe donc à la fin des temps, le corps glorieux est un corps, alors dont bien malin serait celui qui arriverait à décrire les propriétés, là encore, des questions de catéchisme, c'est le bon sens en fait, hein, donc faut surtout pas, je n'éteins pas la mèche qui fume encore ou qui commence à fumer des enfants. Quand on parle des apparitions post-pascales, tout ce qu'on célèbre dans l'octave de Pâques et ensuite, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un corps qui passe les murailles, mais qui en même temps peut manger du poisson, qui a les stigmates, mais qui est glorieux, enfin qui ne souffre plus du tout. C'est étonnant. Qui peut apparaître dans un lieu et subitement disparaître. Bon, donc je crois qu'il est vain d'essayer. Alors les écolâtres s'en sont donnés à cœur joie. À chaque topo, je vous dis que je vous parle des écolâtres médiévaux, hein, mais après. Nous, au séminaire, on posait des questions, quoi. Sauf venu, juste pour, un peu pour pousser le prof dans ses retranchements, et puis aussi pour. Parce que, par curiosité, quoi. Pas toujours très opportune. Mais voilà, c'est quand même notre destinée. Donc, moi, ça m'intéresse de savoir à quoi je m'engage. Parce que si jamais il s'avérait que ça ne me plaisait pas, le Seigneur oublie ce que je viens de dire, je prends tout, pas de problème, je ne fais pas trop de billes du reste. Il y a un programme bien fait là, je pense. Mais enfin, donc on a un corps qui est uni à l'âme, un corps glorieux, qui est en fait proportionné à l'état glorieux de l'âme. Voilà. De même que sur terre, ils étaient unis indivisiblement, de même dans la gloire, indivisiblement. Alors, saint Thomas explique que la gloire de l'âme rejaillit sur le corps. C'est de même que sur terre, dans notre existence terrestre, c'est notre âme qui est le principe vital, qui de l'intérieur anime notre corps. De même, dans la gloire, notre âme glorieuse va animer notre corps, réanimer. Alors, je pense qu'on doit s'arrêter là. On ne sait pas très bien, mais c'est quand même. Voilà. Tout ce qu'on peut affirmer, c'est en puisant dans le livre de l'Apocalypse, par exemple, qui est quand même très imagé, donc il faut faire la part des choses, qu'il s'agira d'un corps parfait. Donc, voilà, c'est pas mal, ça. Alors, je vous dis ce que la maison est capable de fournir en termes de produits, donc un corps parfait, voilà, pas de déformation, pas de maladie, pas de vieillissement sur Terre. Alors, les écolâtres disaient, mais alors quel âge aurons-nous? Ah oui, est-ce que les saints innocents vont se retrouver avec un corps de bébé et le vieux saint Jean dans son corps Eh bien non, je viens de le dire. Alors, il disait, bon, 33 ans, c'est pas mal. On trouve ça dans les suppléments de la Sainte Théologie de saint Thomas. Bon, c'est des notes éparses de saint Thomas qui ont été classées, donc c'était un travail encore en gestation. Au moment où est mort saint Thomas, peut-être la Providence a-t-elle voulu que, bon, on n'aille pas plus loin, mais bon, donc 33 ans. Bon, vous imaginez bien pourquoi, et je me demande bien pourquoi, mais bon, en tout cas, on s'en fout. Enfin, c'est pas important, disons. Et puis, c'est un corps qui sera un corps qu'on appelle spirituel. Alors, saint Paul utilise le terme de pneumatique. Donc là encore, l'imagination échoue, parce que j'en vois, voilà, au fond, qui rigole, évidemment, il y a un radiateur, pneumatique, ça veut dire gonflé, quoi, mais pneuma de l'esprit, donc un corps spirituel, comme je viens de le dire, qui est parfaitement coordonné à notre âme glorieuse, voilà, ça en sera fini du corps animal, enfin du corps pesant qui est le nôtre, qui est déjà pas si mal hein, quand même. Il nous rend quelques services. Enfin, il se bloque vite hein, quand même. Voilà. Donc ça, c'est la gloire du corps ressuscité qui nous apportera un surcroît de joie, de bonheur, voilà, donc qui est un des constitutifs de la béatitude accidentelle. Deuxième constitutif, et ce sera le dernier des constitutifs que j'évoque ce soir, qui n'est pas des moindres quand même, c'est ce que l'on appelle la société des bienheureux, c'est-à-dire la présence des autres bienheureux, anges et êtres humains. Ça, c'est vrai que parfois on a une vision, moins quand même, mais il faut faire son salut. Donc on est seul, il y a Dieu, il y a moi. Je ne veux que Dieu et moi, donc très bien. Et alors on a l'impression au ciel, vision béatifique, ah, ça y est, je suis dans mon bain, qui danse, Dieu en moi, hors de moi, etc. En plus, l'analogie avec l'union charnelle fait croire que c'est one to one, quand même. Mais non, en fait, il y a un élargissement à toute la société, à ces myriades de bienheureux. Et pour une joie, chaque bienheureux plus procure un accroissement de joie. C'est vous dire, depuis le temps, vu le nombre qu'ils sont, non, mais c'est quand même incroyable. Et on comprend qu'il était pour nous, du coup. Si à chaque fois qu'il y a un nouveau bienheureux qui entre, bonjour, oh là, ils sont encore plus heureux. Et c'est vrai, en plus. L'accroissement, comme dans une famille, du reste. Le fait d'accueillir un nouveau, normalement, ça... Bon, il faut faire de la place sur Terre, voilà, mais analogiquement au ciel, il y a ben, je vous en prie, il y a toute la place qu'il faut, voilà, c'est pas de problème. Je vous prête mon lit. Non, c'est pas vrai, il n'y a pas besoin de lit, mais... Voilà, donc, on est... Cette présence-là est tout à fait compréhensible, en mesure, enfin, ce qu'on éprouve de la joie à cela est tout à fait compréhensible, en mesure où Dieu nous a voulu être sociable. Donc, voilà, vivant en communauté. Il va de soi que la présence, par parenthèse, autre service que entre maisons, évidemment, le bienheureux connu et aimé sur Terre, sa présence sera d'autant plus béatifiante. Suivez mon regard. Parce qu'il y en a qui sont parfois un peu inquiets. Deux petites précisions là-dessus, mais je l'avais déjà fait, je pense, qui inquiètent parfois les fidèles, et pas que les enfants du catéchisme, qui sont encore un peu loin de ça, mais les époux, quoi. Maître, une femme avait 7 maris. Vous savez, celle qui a eu les 7 maris consécutifs. Voilà, ils sont tous morts. Au ciel, de qui sera-t-elle l'épouse? Et la réponse de Jésus, voilà, les hommes ne prendront plus de femmes, ni les femmes de mari seront comme des anges de Dieu dans le ciel. Oula. Bon, il y en a peut-être que ça arrange, mais en tout cas... Il faut regarder là-bas, tout droit. En tout cas... Non, mais alors qu'on se rassure, en fait. Hein, il est évident que... Oui, parce que voilà, et l'Église, à la suite du Christ, dit que le mariage ne vaut que jusqu'à la mort. Même le sacro-saint sacrement de mariage. Non, mais qu'on se rassure quand même. Le mariage est cet édifice, cette structure, cette... pardon, le terme est très simple, béquille. Voilà, et somptueuse béquille, qui tire sa vertu du sang du Christ, quand même. Donc, et puis qui rend le couple icône de l'union du Christ et de l'Église. Donc, on s'entend sur béquille avec un grand B, quoi. Mais voilà, mais ça n'est que le moule, une fois que le moule, une fois que la vie terrestre est consommée, eh bien, reste tout ce que le moule a permis de forger, quoi. Voilà, donc ces liens intimes, tout, en fait. Pas seulement les conversations que vous aurez pu avoir mutuelles sur la prière, pas seulement la prière en commun, j'espère, que vous aurez pu vivre, ou les retraites spirituelles, ou les récollections, ou les messes, toutes choses sont toutes choses belles quand même, mais décisives. Mais tout, en fait, tout ce qui vous aura uni, toute cette connivence, cette amitié, tout, en fait, sera porté à incandescence. Donc il n'y a pas à se dire tiens, vous mettez deux orages, je ne sais pas. Pas du tout. Voilà. Et d'autre part, alors question plus grave, qu'adviendra-t-il des bienheureux si l'un des êtres aimés pendant l'existence terrestre n'est pas au ciel, mais au purgatoire ou ailleurs encore, quoi, en enfer. Donc, Est-ce que, enfin, ça semble tout à fait inconcevable dès lors que le bienheureux soit encore heureux, quoi, que sa béatitude ne soit pas ternie. Alors, c'est une question que je traite avec des pincettes, hein, parce que bien malin est celui qui serait rendre compte de tout ce qui se passe là-bas. Mais quand même, ce que nous enseignent les théologiens, c'est que l'âme est dans la béatitude, c'est sa béatitude essentielle, c'est la présence, comme je l'ai dit, la vision de Dieu, etc. Et elle voit dans le sort que la personne en question aura choisi, parce que y a pas, en enfer, il y a des volontaires, et au purgatoire, de toute façon, c'est un moment, un mauvais moment à passer, je veux dire, c'est une période de purification, pour un plus grand bien, la personne a les promesses de la béatitude, et elle est dans la charité, elle est en état de grâce, elle est membre du Christ. Voilà, donc, mais pour une âme qui serait en enfer, la personne voit, je sais que ça peut avoir quelque chose de révoltant, ce que je veux dire, mais bon, c'est somme toute assez logique. Elle voit dans le sort de la personne l'exercice conjoint de la prévenance infinie de Dieu pour cette personne, le sacrifice du Fils unique, Jésus-Christ, pour le bien de cette personne, la constante prévenance de Dieu par le don de sa grâce ou l'offre de sa grâce, et l'exercice de la liberté de la personne qui a refusé. Oula, je sens que je vais en revenir à des choses plus triviales, parce que ça paraît... bon, mais on reviendra, de toute façon, ça présuppose, je pense que je vous parle aussi de l'enfer avant. Parce que, donc on y reviendra. Parce que sinon, je vais te faire lâcher. Voilà. Alors, oui, alors, bon, ça donc, c'est la béatitude essentielle, accidentelle, là, je pense que ça va, à peu près. Ensuite, quid des représentations du paradis ? Parce que, bon, il y a abondance d'allusions dans tout le corpus biblique. Il y en a chez tous les théologiens, il y en a chez tous les artistes, du moins qui se sont penchés sur ce thème-là, et sont innombrables. Et bon, quand même, tout ça, quoi. Bah, oui, le paradis. Alors, il faut se départir d'une idée fausse qui est cette espèce de retour, parce que le terme même de paradis est un peu dangereux, parce que le paradis, c'est un endroit de délice. Vous savez, c'est un terme qui est d'origine perse, persane, qui, le paradis, ça désigne un espace clos dans lequel il y a un jardin luxuriant, voilà. Et la Bible a eu recours à ce terme-là pour décrire l'Éden au deuxième chapitre, au troisième chapitre de la Genèse. Voilà. Lorsque Dieu place Adam dans un paradis et Ève y tout, et après dans le paradis il y a l'histoire, l'embrouille là, au pied de l'arbre avec un certain serpent et tout. Bon. Donc paradis, de lieu de délices, etc. Et donc employer le terme de paradis pour ce que jusqu'alors j'ai qualifié de ciel, c'est risquer que l'on croit qu'il s'agira d'une sorte de retour, si vous voulez, à ce paradis originel, mais qui aurait été comme réouvert. Voilà. Et comment dire, porté à incandescence. Alors, voilà ce que dit un auteur, peu importe son nom. Alors que la tradition platonicienne conçoit l'accès à l'éternité comme un retour naturel à l'immortalité par-delà la mort. Vous savez, l'éternel, enfin, c'est le retour, quoi. L'espèce de nostalgie et le retour vers ce à quoi la nostalgie nous est, vers quoi la nostalgie nous est pensée, quoi. Est étrangère à la pensée chrétienne. Il n'y a pas de retour. On ne retourne pas de là où on vient, pas même au paradis terrestre, en fait. C'est un état, enfin, c'est plutôt la marche de l'histoire est une marche dynamique vers un point oméga. Je ne suis pas en train d'accréditer la thèse de... Enfin, Thérèse de Chardin parle du point oméga. Ce n'est pas dans cette acception que je fais allusion à ça. Ça dit bien vers un point ultime. Voilà. On ne retourne à rien de connu. Voici que je fais toute chose nouvelle, dit le vivant dans l'Apocalypse. Je fais toute chose nouvelle. Il est suffisamment puissant, notre Dieu, pour nous faire aller, pas nous faire revenir vers l'état primitif. Mais j'aime bien la remarque du père Nantière que j'ai déjà cité dans un ouvrage qui s'appelle « Quelle espérance d'être sauvé ?» C'est dans les topos... il y a encore des topos qui ont été mis en ligne. Hein. Ça, je voulais vous le dire pour éviter aussi de me faire lapider. Voilà. Donc, et il y a en référence dans les bientôt 4 topos disponibles en ligne, cet ouvrage-là. Et il dit voilà, qu'au moins, cette image du paradis a des avantages. Il ne faut pas se fier à ce que ça a de trop matériel, etc. Les descriptions du paradis qu'on trouve partout dans la Bible. Mais voilà, il dit que ça permet de faire le lien entre la création et la rédemption. De même qu'il y a eu un paradis dans lequel Dieu nous a placés au commencement de l'histoire humaine, de même, ce même Dieu va, par sa rédemption, nous placer dans un nouveau paradis qui n'a bien qu'analogique avec le premier. Voilà. C'est quelque chose de tout à fait nouveau. Des cieux nouveaux, une terre nouvelle. Et ça, j'en parlerai davantage quand j'évoquerai la parousie, la fin de l'histoire, etc. Parce que c'est là que s'instaureront, avec la résurrection des corps, vous voyez, il y aura un lieu. C'est étonnant quand même. Bon. Voilà. Avec, ça permet aussi ce parallèle, enfin de filer le parallèle qu'établit saint Paul entre le premier Adam et le nouvel Adam. Le Christ qui vient reprendre la création et la porter, la guérir et la porter à sa perfection. Le Christ du reste ressuscité, et c'est probablement anecdotique, mais c'est accidentel, on va dire, c'est pas essentiel, mais donc, cette distinction n'a pas de secret. Le Christ, lorsqu'il ressuscite, apparaît, du moins à Madeleine, sous les traits du jardinier. Et sa résurrection a lieu du fond du tombeau qui était dans un jardin, non loin du Golgotha, nous dit l'Écriture. Vous voyez, ce parallèle est voulu par Dieu lui-même, en fait. Il aurait pu être placé ailleurs. Et les pères de l'Église ont abondamment fait tirer de cela plusieurs enseignements. Bref. Mais il y a une asymétrie fondamentale. C'est pas un retour en arrière vers le jardin d'Éden, c'est tendu vers l'avant, et il y a des analogies. Je suis bien conscient que bon, c'est pas... On peut pas...
La configuration n'est peut-être pas une figure
avec les trois temps. La transfiguration n'est-elle pas un rôle révélateur par rapport à ce que sera la béatitude, probablement. On voit saint Paul qui est déjà habile transition vers le dernier point. Bref. Non, mais c'est vrai, je vais vous parler de la béatitude anticipée. Non, mais Olivier Jean, je vous dois quelque chose. Bravo de lire mes pensées. Oui, certainement. Ce bonheur de Saint-Pierre. Oh, nous sommes bien ici. Naïf en plus, c'est touchant. Mais... On est bien. Ouais, on est bien. Je vais faire ici mais quand même, le gars. Il dit ça, il a devant lui Jésus, Moïse, Élie, enfin, le trio vainqueur, quoi. T'inquiète, alors, reste à discuter, je vais chercher les piquets. C'est une embarque de scout, quoi. Non, mais franchement, j'aime beaucoup les scouts, mais bon. J'ai déjà dit à ma conférence de mercredi dernier qu'ils étaient fous, mais comme scout d'un jour, scout toujours, je suis fou. Voilà. Alors, cette béatitude anticipée, justement, le royaume de Dieu auquel fait allusion, vous l'aurez remarqué, ne semble pas désigner seulement une réalité à venir. Le royaume est au-dedans de vous, ou le royaume est parmi vous, dit-il. C'est assez étonnant. Ce même royaume qui, sans ambiguïté, désigne, enfin, il a fallu quand même des petites explications du Christ, mais qui désigne bien le ciel aussi, enfin la vie éternelle en tout cas. À quoi vais-je comparer le royaume, etc., le grand festin du roi, qui est offert pour les noces de son fils, les noces de l'agneau, évidemment, qui est repris dans l'Apocalypse. Donc, c'est à la fois ce royaume, il va être consommé dans l'éternité, mais il est au milieu de vous, il est au-dedans de vous, même, dit Jésus. Hein. Donc, il est déjà en germe sur cette terre. À vrai dire, le royaume, dans son expression la plus primordiale et la plus simple, c'est Jésus lui-même. Il est le royaume. C'est sa personne à laquelle sont appelés à participer, pas seulement que sont appelés à suivre, mais auxquels sont appelés à participer toutes les personnes humaines. Et dès cette existence terrestre, suis-moi. Suis-moi et, en fait, commerce avec moi, mange ma chair, bois mon sang, c'est quand même ce qu'il dit à longueur de vie publique. Donc, il se vit sur terre, cette béatitude anticipée par la médiation de l'Église épouse que Jésus a instituée, intendante de ses mystères. Dès cette terre, l'Église a cette capacité de dresser la tente, pour reprendre le désir de Saint-Pierre. Il ne savait pas que lui serait le premier, le pionnier à planter la tente. Quoi. Bon. Béatitude anticipée. Alors, c'est une béatitude imparfaite, on ne voit pas l'essence de Dieu. A fortiori, on n'est pas encore ressuscité, sinon je pense que mais pour ressusciter, il faut d'abord mourir, c'est ce à quoi je travaille. Il est 22h bientôt. Voilà. Au fond, je veux votre bien. Voilà, donc c'est la béatitude imparfaite. Donc on est sur terre, on peut encore se détourner de Dieu, alors que dans la béatitude définitive, enfin, la béatitude au sens strict. On ne peut plus se détourner du souverain bien. On est encore exposé à la souffrance ou simplement à la pesanteur de notre condition charnelle. Voilà, on est bon grain mêlé d'ivraie, c'est comme ça. Mais c'est une béatitude bien réelle. Saint Thomas en parle dans le petit traité aux cinq questions là, que j'ai évoqué en commençant. Il dit « Une certaine participation de la béatitude peut être obtenue en cette vie. » Alors, où trouver cette béatitude imparfaite? Disons partiel pour être plus positif, et bien premièrement, sans doute, hein, rien de nouveau, dans la participation au sacrement. On trouve. Les sacrements sont célébrés de manière organisée, cette manière organisée de célébrer les sacrements s'appelle la liturgie. La liturgie, et la divine liturgie, donc la fine pointe de la liturgie qui est la liturgie eucharistique, la messe, que nos frères donnent appel à la divine liturgie, les saints mystères, c'est qualifié par eux de ciel sur la terre. Et alors, donc on reçoit, évidemment, la liturgie n'est qu'un écrin dont le cœur est le sacrement, quel que soit le sacrement. Il y a la présence de la communauté, même si c'est la portion congrue de la communauté, même si c'est la communauté est quand même là. Et il s'y vit à l'égard de Dieu. Une compénétration, la danse, le truc. Alors, on n'était pas obligé de danser tout le temps, je ne sais pas quoi. Tout ça quand on est malade en dansant. Bon. Mais bon, enfin, vous voyez, le mariage, peut-être davantage, je ne sais pas, enfin, peu importe. Il y a, quelque chose de la béatitude qui est déjà vécue, et surtout, enfin, pas surtout, de manière seconde, il y a également cette vie communautaire qui devrait être, qui nous initie en tout cas, au bonheur mutuel ressenti par les élus en présence les uns des autres. Ça devrait être ça, nos liturgies. On est sur bon chemin, quand même. Non, mais il faut être... quand même, on essaye un peu, non? Enfin, je sais pas. Pas du tout. Faites les gueules, tout, quand on essaye la messe, bon, d'accord, c'est rien de faire mieux. Mais il faudrait qu'on puisse dire, nous sommes bien ici. Mais c'est vrai. Et avec des tempéraments très vite. Ça vient du ciel, hein. Le ciel sur la terre, parce qu'avec des tempéraments très différents, des options très différentes, tout ça, c'est possible en fait. Il doit y avoir plusieurs demeures dans la maison du Père. C'est pas moi qui, comme vous le savez, suis attaché à deux expressions liturgiques, le rite romain, donc je ne vais pas dire l'inverse. Mais fondamentalement, ça ne doit pas être un obstacle. Parce que ce qui nous réunit, c'est pas seulement des efforts humains et une liturgie simplement faite de main d'homme. Mais c'est le Christ même, en fait, qui agit. Vous savez, la définition que donne Pie XII et le Concile Vatican II de la liturgie, c'est l'action du Christ, c'est le sacrifice que Jésus offre à son Père dans un hommage amoureux, filial, auquel nous sommes agrégés, parce que unis au Christ dans notre baptême. C'est ça en fait. Ça donne évidemment à la liturgie une perspective qui est quand même autrement enthousiasme, enfin galvanisante, quoi. Et ça nous aide. Je veux dire que, pour vraiment aller jusqu'au bout de mon idée, ça n'est pas l'unité liturgique n'est pas le but à atteindre. Oui, pour partie, il faut être clair, tant qu'on est sur cette terre, comme ça. Mais c'est aussi donné d'emblée. Il y a dans les sacrements de quoi honorer l'unité du corps mystique. Encore une fois, je ne donne pas les différences, machin, voilà, on a le droit de taper dans les mains, ou de préférer le latin, ou de trucs. Mais fondamentalement, voilà, il y a cette. Et du reste, j'aime beaucoup ces auteurs du grand siècle, Ollier, Bérulle, Saint-Vincent de Paul et compagnie, qui disaient que la liturgie nous habitue. Alors, c'est long, ça se fait avec des chutes, des coups de griffe, des coups de latte, mais. Nous habitue petit à petit à adopter les mœurs même des bienheureux au ciel. Et c'est vrai que, pardon, parce que c'est une idée qui est assez récurrente, enfin, près qui m'obnubile, enfin, qui me plaît, et du coup j'en parle un peu, peut-être trop, mais regardez la façon dont dont la liturgie elle-même nous invite à nous comporter les uns avec les autres. Chacun est à sa place. Il y a une tiède sur la terre, quoi. On écoute. Voilà. Il y a un moment où on peut parler, mais à d'autres, on se tait à genoux, selon. Voilà. Il y a, on s'approche pour communier, au moment dit. En fait, on ne vient pas quand on veut, si on veut. Enfin, si on veut, si. Mais, on va pas nous forcer. Mais c'est une civilisation de nos mœurs. Et une civilisation, pas selon des normes humaines, on doit pas, machin. Ça dépasse les convenances sociales, c'est selon ce que Dieu veut que nous soyons les uns par rapport aux autres. Enfin bon, je ne veux pas encore approfondir ça, mais c'est une piste quand même à explorer, je pense. Voilà. Et évidemment, il y a. Donc les sacrements, c'est vraiment ce qui nous permet de goûter le plus amplement la béatitude anticipée. Puis après, il y a évidemment. Et dans les sacrements, on est établi dans l'inhabitation des personnes divines en nous, quand même. On est divinisé. Donc voilà. Confère ce que disait la petite Élisabeth, la Trinité et d'autres. Voilà. Et puis il y a évidemment la prière qui nous conduit à l'union. On s'en doute. Enfin, c'est quand même le but. Alors, on est d'accord. Hein, la prière est difficile pour tout le monde, sans exception. Je crois que même au fond d'une chartreuse, ils le disent. Voilà. Donc, mais si on y prête son concours, il y a déjà. On goûte la joie de la communion avec Dieu. Bon. Et il y a des moments, j'en suis certain, chacun d'entre nous a déjà éprouvé une paix, une joie de prier Dieu. Parce qu'on a un Dieu qui est quand même large, il est bon, quoi. C'est un père. Donc il ne nous donne pas seulement des croquettes amères, quoi, enfin, ou périmées, pas du tout d'ailleurs. Voilà, pourtant il nous donne quand même des consolations, quoi. Alors pas tous les jours, on est d'accord. Dans les spirituels, là, vous savez, de ces trois grandes étapes, purgative, illuminative, unitive. Voilà, ça c'est le grand classique. Donc c'est petit à petit, quoi. Évidemment, moins on prie, moins c'est unitif. Hein. Bon, il faut quand même se donner un peu de mal. Mais bon. Voilà. Et puis, je vais vraiment cette conclusion. Ce qui nous permet aussi de goûter un avant-goût de cette béatitude céleste, totale, plénière, c'est la paix du cœur, je viens de le dire, que procure l'union avec Dieu dans les sacrements, en présence de la communauté ou au sein de la communauté, et puis dans la prière personnelle. Et puis aussi, je crois, on a un reflet dans l'amitié, dans le beau, dans ces moments de joie, même humains. En fait, Dieu se manifeste là. Et ça, c'est beau parce que c'est universel. Ce sont comme des apôtres de Dieu C'est saint Augustin qui met sur la bouche des créatures « Vois comme nous sommes belles ». Cette beauté, nous ne saurions la tenir de nous-mêmes. Nous sommes un reflet de celui qui est beauté. C'est exactement ça. En fait, on attire par le... Enfin, Dieu nous attire, il attire toute personne humaine dans ces instants incroyables d'amitié, dans cette contemplation du beau. Voilà. Bon, je m'arrête là, parce que sinon je pourrais encore... Mais non, ça va aller. Attends. C'est bon. Oui. Regarde.